Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Homo quidam fecit cenam maniam. Il était une fois un homme qui organisa un grand festin. Cet homme, mes bien chers frères, cet homo quidam, représente bien sûr le bon Dieu, notre Dieu, qui a précisément créé les anges et les hommes dans ce seul but, nous inviter à son festin. Ce festin ineffable qu'il est déjà lui-même de toute éternité en trois personnes dans sa vie trinitaire et auquel il veut nous faire participer. Voilà la première réalité que l'Église veut nous rappeler aujourd'hui par cet évangile. Nous avons reçu une invitation et Dieu attend que nous y répondions. Mais en fait, Dieu est tellement bon qu'il donne toujours plus que ce qu'il promet. Il nous annonce ici un festin et nous pensons bien sûr au ciel qui est vraiment le grand festin, le festin définitif qu'il ne faut manquer à aucun prix. Mais dans sa bonté, Dieu n'a pas voulu nous laisser attendre jusque-là. On pourrait presque dire qu'il n'a pas pu s'empêcher d'avancer l'heure du repas pour nous proposer déjà ici-bas un avant-goût et même deux avant-goûts du banquet céleste. Et finalement, on peut dire que nous sommes appelés par Dieu à trois repas. D'abord, ce qu'on peut appeler le repas de la sagesse, c'est-à-dire le repas de la charité ou bien la jouissance de sa présence dans notre âme où il veut bien établir son séjour. Ensuite, le repas de la Sainte Eucharistie, où il se donne à nous de façon à la fois spirituelle et corporelle pour mieux nous préparer au banquet éternel. Enfin, bien sûr, le festin du ciel, où Dieu se donnera à nous de façon encore plus parfaite et bien plus délicieuse que tout ce que nous pouvons recevoir ici-bas. Mais pour arriver à ce troisième festin, il faut avoir goûté des deux autres, car on ne peut accéder au ciel sans avoir eu d'une façon ou d'une autre une participation sur cette terre. Ici, l'un d'entre vous demandera peut-être « Mon Père, je comprends bien ce que vous dites du festin céleste. » D'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile, compare souvent le royaume des cieux à un banquet. Je comprends également ce que vous dites du festin eucharistique, où Jésus donne son propre corps à manger. Mais qu'est-ce que ce festin de la sagesse dont vous nous parlez? Peut-on vraiment comparer la sagesse à un repas? Il semble que ça n'ait pas grand sens. Ici, il faut prendre le mot « sagesse » en son sens premier. Le don de sagesse, en latin « sapientia », du verbe « sapere », qui veut dire « avoir du goût », le don de sagesse pourrait être appelé le don de la saveur, car il donne le goût des choses divines. Il nous les fait sentir et apprécier, et parfois de façon tellement délicieuse que cela dépasse tous les plaisirs de la terre. Et je fais appel à votre expérience. Tous, à un moment ou à un autre, vous avez ainsi trouvé une joie intérieure à vous trouver dans l'amitié de Dieu. Notez que ce sentiment n'est pas un état permanent, même chez les plus grands saints. Ils ont, comme on dit, des périodes de désolation intérieure qui alternent avec des périodes de consolation intérieure. Et ils passent parfois, à cet égard, par de très grandes épreuves. Mais, à un moment ou à un autre, ce peut être dans l'oraison, ou bien en entendant une parole de l'Évangile, dans une lecture spirituelle, dans une cérémonie liturgique ou même n'importe quand, Dieu se fait sentir. Il se fait goûter à l'âme par ce don que l'on appelle le don de sagesse qui nous donne une certaine connaissance expérimentale de l'amour divin. Jésus nous en parle dans l'Apocalypse. Il nous dit « Je me tiens à la porte de notre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. » Et si nous savons être attentifs, si nous ouvrons, que fait-il ? Il vient prendre son repas avec nous. Notez bien qu'il y a quand même quelques conditions, et cela parce qu'il y a des obstacles. Notre Seigneur n'entre que si on lui ouvre, et il ne reste pas à hurler devant la porte. Non, il se contente de frapper. Ce qui fait que si nous sommes occupés ailleurs, facilement, nous ne l'entendrons pas frapper. Et nous retrouvons ces obstacles qui sont précisément exposés dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a d'abord cet homme qui ne vient pas au festin parce qu'il vient d'acheter une maison de campagne. Cet autre qui a acheté des bœufs pour labourer. Et ce troisième qui vient de se marier. Nous avons là les trois formes que peut prendre l'attachement aux choses de ce monde. Les pères de l'Église remarquent que la maison de campagne représente l'orgueil et la vanité. D'abord, disent-ils, parce que tout le monde ne possède pas ainsi deux maisons. Ensuite, parce que un certain nombre de gens, parce qu'ils ne peuvent pas être les premiers à la ville, aiment avoir une maison à la campagne où ils pourront étaler leurs richesses et apparaître le premier dans tel ou tel village. Et d'ailleurs, font-ils remarquer, quand cet homme dit « j'ai acheté une maison de campagne, il faut que j'aille la voir », certainement, il a déjà vu cette maison, car personne n'est assez fou pour acheter une maison sans y avoir jeté le moindre coup d'œil. Ce qu'il veut dire, c'est « je ne l'ai pas vu en tant que propriétaire. Quand je l'ai vu, c'était encore le bien d'autrui. Et maintenant, je veux la voir et je veux m'y faire voir comme le maître, le possesseur. » Nous avons là la complaisance en soi-même, l'orgueil, qui est évidemment un des grands obstacles à l'écoute de Dieu, à l'ouverture de la porte devant notre Seigneur qui se contente de frapper discrètement. Si je suis préoccupé de moi, de faire résonner mon propre nom, je n'entendrai pas ce que Jésus veut que j'entende, à savoir le petit frappement à la porte. De même, si je suis attaché aux biens de ce monde, aux richesses matérielles qui sont représentées ici par les bœufs par lesquels se fait le travail, se faisait le travail de la terre et donc par lesquels on produisait des richesses, si je suis attaché aux biens de ce monde, si j'en suis préoccupé, si je pense trop souvent à ça, je n'entendrai pas notre Seigneur. Et vous remarquez que le troisième invité est encore plus grossier que les précédents. Les deux premiers disent « excuse-moi, je ne peux pas venir, excuse-moi ». Le troisième n'a même pas un mot d'excuse. Il se contente de dire « j'ai pris femme, je ne peux pas venir » et il ne rajoute même pas « abeme excusatum ». Il est tellement pris par la passion qu'il ne se soucie même plus des convenances. Et nous avons ici la troisième concupiscence, le désir des plaisirs ou la concupiscence de la chair. Et c'est dans la mesure où nous savons contrôler, maîtriser et nous libérer de ces trois concupiscences que nous pourrons entrer au festin, ce festin de l'âme, ici-bas, avec notre Seigneur. Et notez bien que ces trois conditions sont les mêmes que celles qui vont nous permettre de faire une bonne communion. Pourquoi tant de chrétiens communie-t-il si souvent avec l'impression de progresser si lentement? Parce que leurs communions ne sont pas suffisamment ne sont pas suffisamment accompagnées d'un détachement des choses de ce monde. Une bonne communion doit être non pas seulement la réception de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas, mais en même temps le fait de se détourner du monde, se détourner de son orgueil, de sa vanité, se détourner de l'attachement au bien de la terre, se détourner des plaisirs d'ici-bas. En pratique, il est bon de préparer les communions par un sacrifice, de se dire « demain je communie, je vais offrir tel ou tel sacrifice pour préparer ma communion, pour bien manifester à notre Seigneur Jésus-Christ que je veux, pour m'unir à lui, me détacher de tout ce qui peut me détourner de lui. » Et dans la communion elle-même, il faut demander ce détachement. Si nous ne le demandons pas, nos communions, même si nous les faisons évidemment en état de grâce, même si nous les faisons avec une certaine bonne intention, mais si nous n'avons pas cette ferme volonté de travailler à nous détacher des affections déréglées d'ici-bas, nous progresserons très peu. Et c'est bien l'enseignement que nous donne aujourd'hui notre Seigneur. Pour répondre à son invitation, il faut savoir oublier, il faut savoir négliger, il faut savoir mépriser un certain nombre de choses d'ici-bas. Vous savez que nous ne pouvons pas, en ce dimanche, solenniser la fête de Dieu, puisqu'il nous a été interdit de faire une procession, mais cela ne nous empêche pas de prendre la résolution de mieux honorer notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement et de mieux communier. Et voilà la résolution pratique que nous pourrions prendre, ce serait d'accompagner chacune de nos communions de cet acte positif de détachement des choses d'ici-bas, par un sacrifice auparavant, et puis au moment de la communion, ou juste après, nous rappeler « Mon Dieu, je vous demande votre lumière pour savoir de quoi vous voulez que je me détache, et puis ensuite je vous demande votre force pour efficacement savoir rompre avec telle ou telle attache qui n'est pas raisonnable ou qui n'est pas nécessaire et dont je vois qu'elle m'empêche de m'approcher de vous, qu'elle m'empêche de progresser, qu'elle m'empêche de me sanctifier davantage. » Et si vraiment nous faisons cet effort, oui, nos communions seront fructueuses. Nous pouvons demander cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.